Alors oui, bonjour à tous. Je vais effectivement essentiellement parler d'élèves. Alors pour vous rassurer, on est une équipe à Genève un petit peu contre-stéréotypique. Donc le plus bavard, c'est Géry. En principe, je suis un petit peu plus, un peu moins loquace que lui. Donc on va essayer de tenir les délais comme ça. Avant de commencer, je voudrais simplement associer Marcel Carrae à cette présentation, vu qu'il devait être parmi nous aujourd'hui, mais qu'il n'a pas pu. Et que je vais présenter des travaux qu'on mène ensemble. Alors effectivement, dans une perspective plus de stigmatisation, et Géry a beaucoup parlé des enseignants, moi je vais essayer de parler plutôt des élèves. Des élèves au primaire, alors avec des études qui ont été faites dans le canton de Genève, essentiellement, même si certaines ont donné lieu à quelques réplications. Alors je vais, comme tout le monde, passer sur la première étude du constat des effets délétères du redoublement. Je crois qu'on a déjà beaucoup parlé de ça aujourd'hui. Je reste quand même une minute sur cette diapositive un petit peu schématique, voilà, des effets délétères du redoublement sur les dimensions cognitives, sur les dimensions psychosociales, socio-affectives, quel que soit le terme qu'on utilise. Je passe quand même sur cette diapositive pour dire que ce qui nous manque parfois un petit peu, c'est la compréhension du pourquoi. On a pas mal d'hypothèses de pourquoi le redoublement présente autant d'effets délétères de manière consistante sur ces dimensions. On a un peu moins d'éléments du pourquoi. C'est un peu dans cette idée-là qu'on s'est penché avec Marcel Carrae sur une hypothèse qu'on va formuler plus en termes de stigmatisation, de stéréotypes envers les élèves redoublants. Donc c'est essentiellement de ça que je vais vous parler. Donc avec un double intérêt, ben, le premier intérêt c'est de savoir si cette population-là d'élèves est une population stigmatisée. On a des études, il faut peut-être que je dise qu'on est à un croisement avec Marcel Carrae de recherche en éducation, et puis moi j'ai une formation plus psychosociale, donc on articule nos connaissances sur ce terrain-là. Donc un double intérêt, l'intérêt c'est d'étudier si effectivement les élèves redoublants sont finalement un groupe stigmatisé dans le système scolaire. Ça a un intérêt parce qu'on sait qu'il y a pas mal de groupes d'élèves hein, qui sont des groupes stigmatisés. On pense aux minorités ethniques, aux élèves d'origine sociale défavorisée, aux garçons ou aux filles en fonction de certaines disciplines scolaires. On sait moins de choses sur ce qui se passe pour les élèves redoublants, en tout cas du point de vue des élèves. Donc c'est un peu le questionnement. Ça a un deuxième intérêt, c'est que si effectivement on a des stéréotypes, donc des croyances généralisées à propos des élèves redoublants. Ces stéréotypes, ils vont pouvoir, c'est pas le bon terme, mais ils risquent d'avoir un impact en termes d'apprentissage, en termes de performance scolaire, et puis également sur toutes les dimensions psychosociales ou socio-affectives. Donc l'intérêt, il est double. Le deuxième intérêt, il est grisé, parce qu'on en est quand même plutôt à la première étape, mais je crois que c'est important de comprendre ce raisonnement sur les conséquences potentielles des stéréotypes en termes de performance, en termes de comment je fais face à l'évaluation et comment j'oriente mon parcours scolaire. Donc je dis un mot là-dessus, justement, il y a l'idée, c'est de dire que si on fait une hypothèse de stigmatisation, il y a une raison, c'est que si on a une catégorie de redoublants, comme on a des catégories éducation prioritaire, on crée de la catégorisation sociale. Ça veut dire qu'il y a, à partir de ce moment-là, les non-redoublants et les redoublants. Ça veut dire qu'on crée des groupes distincts, et c'est des choses qu'on va voir par la suite. Le problème de cette catégorisation sociale, hein, elle a une utilité. Hein. Le principe de la catégorisation, c'est aussi de nous permettre une certaine économie cognitive. Donc ça veut dire qu'on va connaître un certain nombre de caractéristiques sur les objets ou sur les personnes, simplement parce qu'on sait qu'ils appartiennent à certaines catégories. Donc une catégorisation sociale qui risque, en tout cas dans le cas de caractéristiques négatives, d'associer à des groupes de personnes des caractéristiques négatives, donc des stéréotypes négatifs, avec ce que je vous disais justement, le fait que ces stéréotypes peuvent amener à vivre des expériences de stigmatisation. Donc le raisonnement, il est là, de dire est-ce qu'on ne peut pas creuser cette question des effets du redoublement sous l'angle d'une stigmatisation potentielle des élèves. Alors, pourquoi on fait cette hypothèse? Je vous le disais, ça a été fait avec de nombreux groupes sociaux. Il y a plusieurs possibilités. Je peux finir par intérioriser les stéréotypes qui sont rattachés à mon groupe. Ça veut dire que je peux finir par penser qu'effectivement, si tout le monde pense que les élèves d'origine sociale défavorisée, ils ont plus de mal à l'école, et que moi, je suis d'une origine sociale défavorisée, je peux finir par l'intégrer comme faisant partie de ce que je suis. Donc ça devient quelque chose qui fait partie de ma définition de moi-même, et je vais finir par intérioriser. Ça va avoir des effets, bien sûr, en termes de performance, de parcours scolaire, de perception de compétences, etc. etc. On n'est pas non plus obligé d'aller si loin. Là, je fais une petite référence à tous les effets des attentes, hein, par exemple, tout ce qui relève de l'effet Pygmalion. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'intérioriser, je peux simplement être confronté à des attentes qui sont positives ou négatives. Là encore, ce qu'on observe dans la littérature, c'est que, à force de ces expériences, on va avoir tendance à se conformer aux attentes de notre entourage, que ce soit les enseignants, les parents ou les autres élèves, nos copains, etc., etc. Donc c'est une deuxième possibilité. Troisième possibilité, comme quoi vous voyez les possibilités, ou plutôt les risques, on va dire, sont assez nombreux. Je peux aussi simplement, on va prendre l'exemple d'une fille qui est confrontée à son épreuve de maths au baccalauréat. Elle est dans une situation isolée, il n'y a pas d'attente à ce moment-là, parce qu'elle est seule confrontée à sa tâche, mais simplement elle connaît. Elle a eu assez d'expérience, elle a été confrontée à assez d'attentes, elle sait que les attentes ne sont peut-être pas les mêmes, et surtout elle n'a pas vraiment envie de conforter l'image qui est rattachée à son groupe social. Donc finalement c'est une pression supplémentaire à gérer. Ça veut dire que pendant que je résous la tâche, je dois résoudre ces pensées qui sont un petit peu interférentes, et puis je dois aussi me concentrer sur la tâche que j'ai à résoudre. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on sait qui sont établies pour l'instant pas avec les élèves redoublants, mais justement qui nous paraissait importante à traiter avec Marcel, en se disant si effectivement on a des stéréotypes qui sont rattachés à ce groupe scolaire en particulier, alors on voit tous les processus auxquels ils peuvent être confrontés à terme pendant leur parcours scolaire. Voilà. Donc je vais simplement vous présenter deux études. Une première étude dont je ne faisais pas partie, mais à laquelle Marcel a collaboré, qui était une première étude destinée justement à cerner un petit peu le profil des élèves redoublants, mais qui a été menée uniquement auprès des élèves non redoublants. Il y a aussi des fois des facilités d'accès quand on fait la recherche qui amènent quelques contraintes. Je ne vais pas revenir sur la première tâche, je vais parler rapidement de la deuxième et la troisième tâche. La deuxième tâche, simplement, vous connaissez, je pense, le jeu tabou. Ça veut dire qu'on doit faire deviner, on demande aux élèves de faire deviner le terme redoublant, comme ils veulent, en fait. Hein. Donc, l'idée, c'est de voir comment, spontanément, ils vont décrire les élèves redoublants. Et puis, la troisième tâche, sur laquelle je reviendrai aussi, on va simplement essayer de dégager un petit peu un portrait type de l'élève redoublant. Donc, on va leur proposer des associations d'adjectifs, et ils vont devoir choisir celui qui caractérise le mieux l'élève redoublant. Donc, sur cette deuxième tâche, cette tâche de tabou, justement, qu'est-ce qu'on observe ? On observe, alors 4P, 6P, 8P, c'est l'école primaire à Genève, donc 8e primaire, c'est le CM2, puis vous revenez en arrière pour les degrés inférieurs. Ce qu'on voit ressortir, c'est essentiellement 4 catégories, hein, des catégories en termes d'efforts, c'est celle qui sort vraiment de manière la plus prégnante de la part des élèves. Si les élèves redoublent, c'est qu'ils n'ont pas fait assez d'efforts. La deuxième catégorie, c'est synonyme ou résultat. Synonyme, ça veut dire c'est quelqu'un qui n'a pas passé son année, voilà comment on fait deviner, ou résultat, donc qui n'a pas eu les notes pour passer son année, hein, globalement. Ou alors, une catégorie aussi en termes d'intelligence et en termes de stratégie d'apprentissage. Donc vous voyez que toutes ces catégories sont imputables à l'élève. Hein. Dans tous les cas, il n'y a pas de remise en cause de l'enseignant, de l'école ou des parents. Toutes ces catégories relèvent de la responsabilité de l'élève. Celle qui ressort le plus, c'est celle qui est évoquée en termes d'efforts, hein, l'élève redoublant qui ne ferait pas assez d'efforts. Donc on est vraiment ici sur, si on parle un petit peu d'attribution, sur des caractéristiques qui sont dispositionnelles, donc imputables à l'élève. et qui sont contrôlables. Ça veut dire qu'en termes de responsabilité, on est au plus fort de ce qu'on peut être, puisque la responsabilité elle est due à l'élève, et que si l'élève il avait fait des efforts, ben, il ne serait pas dans cette situation. Donc, on est au maximum de sa responsabilité. Ça rejoint d'autres études qui sont plus qualitatives, qui ont été interprétées ou pour lesquelles on a parlé de ce que Marcel notamment appelle la loi du silence. Il y a une espèce de méconnaissance de, quand on interroge les élèves de pourquoi ils ont redoublé, il y a une espèce de méconnaissance du pourquoi ils ont redoublé, donc ce qu'ils appellent un petit peu la loi du silence. Mais on a besoin de trouver des explications à ce qui se passe quand même. Et puis le fonctionnement humain est tel qu'on va chercher plutôt des explications internes. Ça veut dire que si on n'a pas d'explication qui est donnée, on va chercher des explications internes sur lesquelles les gens pourraient agir, donc des explications internes et contrôlables telles que le manque d'effort qui est évoqué ici par la majorité des élèves. Deuxième tâche sur laquelle je reviens, simplement une liste de paires d'adjectifs, et puis les élèves doivent entourer celui qui correspond le mieux à l'élève redoublant. Heureusement, il y en a quand même quelques-uns qui refusent de répondre à cette question, parce que ça veut dire quand même que spontanément, on peut dire « oui, bon, je peux très bien trouver un qualificatif qui soit applicable à l'ensemble des élèves redoublants ». Donc on est déjà, par rapport à cette question de catégorisation, on est bien dedans. La majorité le font. Bon, quand on fait des études sur les stéréotypes avec les adultes, ça marche aussi, hein, c'est pas enfant-adulte. Tout le monde va facilement trouver des caractéristiques pour les groupes donnés. Donc voilà, ils doivent simplement trouver ça. Les auteurs ont décidé que quand un adjectif était choisi par plus de 2/3 des élèves, il pouvait rentrer dans le portrait type de l'élève redoublant. Donc il fallait simplement ce critère de 2/3. Donc voilà, je refais la même. Voilà le portrait type de l'élève redoublant. Là, sur des choses qui sont transversales au 4e primaire, 6e primaire, 8e primaire. Donc plus de 2/3, sachant que pour un certain nombre de caractéristiques, on est au-delà des 80%, hein. Donc en principe c'est 66-67%, mais on est pour beaucoup à au-delà de 80%. Donc vous voyez que le portrait n'est pas très flatteur, c'est le moins qu'on puisse dire. Fainéant, lent, difficile. Bon, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des termes qui sont très négatifs et qui sont liés aux apprentissages scolaires. Il y en a d'autres qui ne sont pas du tout liés aux apprentissages scolaires. Voilà, l'élève redoublant est mal poli, par exemple. Là, il y a un vrai effet de halo, donc on contamine, hein, ce qui part des dimensions scolaires va se contaminer à d'autres dimensions. Et puis, il y a aussi un terme qui est intéressant, c'est le terme différent. Vous voyez, par rapport à toute cette idée de catégorisation et de différenciation, parce qu'on a dit, il y a les redoublants, il y a les non-redoublants, ben, quand on interroge les élèves non-redoublants, l'élève redoublant, il est différent. Voilà. Donc ça, c'est l'étude qui avait été faite en 2001 ou 2002, je ne sais plus, qu'on a reproduit avec Marcel, et puis on est aussi allé interroger les élèves redoublants, parce que c'est quand même les premiers concernés. Sur les élèves non redoublants, on retrouve le même constat que celui qui avait été fait 10 ans plus tôt, qui avait été aussi reproduit d'ailleurs dans le Val d'Aoste, si je ne me trompe pas. Donc on retrouve la même chose. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder ce que pensent les élèves redoublants eux-mêmes. On l'a fait en 2 temps. Est-ce que vous connaissez le stéréotype ? Donc en gros, on leur dit, à votre avis, les gens en général, ils pensent quoi des élèves redoublants ? Donc ça, c'est la première étape. On retrouve à nouveau un profil qui est assez négatif. Ne prenez pas le terme souriant pour un adjectif positif, parce que là, on peut dire qu'il y a un petit problème de matériel, donc le terme souriant était associé à sérieux. Donc, à défaut d'être sérieux, ils sont moins souriants. Donc, le profil n'est pas beaucoup plus positif grâce à cet item-là. Donc, sur les 24 paires de mots qui seront proposés, il y en a quand même 14 sur lesquels on a, en tout cas, cette conscience, cette connaissance de dire oui, bah, je pense que les gens ils disent des redoublants qui sont mauvais, fainéants, bêtes, distraits, etc. etc. Mais on leur a aussi posé la question de à ton avis, toi, comment ils sont, les élèves redoublants? Qu'est-ce que tu penses des élèves redoublants? C'est toujours sur la même épreuve. Là, et puis c'est un constat qu'on retrouve globalement, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'items négatifs qui sont mentionnés. Voilà, ils sont quand même distraits et lents à plus de 2/3, hein, donc on n'est pas non plus, c'est pas qu'une vision positive. Mais il y a aussi des items positifs qui ressortent sur des dimensions qui ne sont pas des dimensions scolaires, purement en termes de relation à l'apprentissage scolaire, mais plutôt sur la dimension sociale. Ça aussi, on sait que globalement, on essaye de compenser ce qui serait plutôt une image négative sur une dimension en allant chercher une image positive sur une autre dimension. Donc voilà, la nuance nous paraissait importante, d'autant plus par rapport à tout ce que j'ai pu expliquer sur les différents modèles des effets des stéréotypes. Mais dans les deux cas, ils connaissent le stéréotype, donc par rapport à ces effets d'attente, ces effets de pression dans les situations d'évaluation, on voit qu'effectivement, ils semblent correspondre à une population qui pourrait subir ces effets. On a aussi pris une mesure d'estime de soi chez les élèves redoublants et non redoublants, donc qui avaient rempli notre questionnaire. Ce qui en ressort avec 6 dimensions différentes, c'est que les élèves redoublants présentent une estime de soi plus faible sur les dimensions compétences scolaires, conduite en classe, et puis sur une dimension qui est plus une valeur générale. Par contre, on n'a pas de différence sur les dimensions compétences sociales, compétences physiques et sportives, et puis sur l'apparence physique. Je dis un mot là-dessus, parce que ce qu'on connaît dans la littérature, c'est que souvent, finalement, même si ce n'est pas très adapté, les groupes stigmatisés, ils ont tendance à mettre en place des stratégies pour se protéger. Donc souvent, la relation entre stigmatisation et estime de soi, elle n'est pas si simple. Parce que elles ne sont pas forcément adaptées, parce que bien sûr, c'est dire soit je vais me désengager de l'école, soit je vais mettre on a parlé des stratégies d'auto-handicap, des stratégies d'auto-handicap en place, etc. Ça protège l'estime de soi. Là, on voit que le lien, il n'est pas coupé. En tout cas, sur l'étude qu'on a menée, malheureusement, il semble que, effectivement, plus nos élèves adhèrent aux stéréotypes, plus ils sont affectés en termes d'estime de soi sur ces dimensions-là. Donc, ce n'est pas très rassurant. On peut aussi se poser la question de est-ce que, globalement, les élèves, ils ont des ressources qui sont des stratégies individuelles, des stratégies collectives. Qu'est-ce qu'il en est des élèves redoublants? Est-ce qu'ils ont ces stratégies collectives ou pas, parce que ça rejoint cette question de loi du silence autour du redoublement, ça rejoint la question de si on redouble dans les premiers degrés, ben on est peut-être le seul dans ce cas-là, et que des stratégies collectives, donc basées sur son groupe social, on ne les a pas forcément. Donc tout ça, c'est des questions qui sont à creuser. Voilà, je conclue simplement en disant que l'idée sur laquelle on est en train de travailler, mais vous voyez, on en est quand même qu'au début, on est dans le constat de cette stigmatisation. Ce qu'il faut creuser par la suite, c'est de voir si cette stigmatisation ne contribue pas, on n'est pas du tout dans quelque chose d'exhaustif, mais si elle ne contribue pas à expliquer un petit peu tous ces effets délétères dont on a pu parler ce matin et cet après-midi. Voilà, je vous remercie.